9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Dernière nouvelle du virus, un traitement à la chloroquine qui fait plus de mal que le bien, l'annonce prématurée d'un vaccin d'ici la fin de l'année, mais aussi des indicateurs à la baisse en France, des foyers épidémiques qui naissent presque tous dans des espaces clos, et l'hypothèse qu'une partie de la population n'est pas sensible au Covid, qu'elle bénéficie d'une immunité naturelle ou acquise par un autre virus. Les réponses et les incertitudes de l'épidémiologiste Dominique Costagliola, ma première invitée dans un instant. La surprise Merkel, avec le plan franco-allemand pour renflouer l'Europe, la chancelière a accepté ce qu'elle avait toujours refusé, une mutualisation de la dette au profit des pays européens les plus en difficulté. On va mesurer la portée de cette révolution et ses chances d'aboutir avec deux spécialistes des questions européennes, la journaliste Marion Van Rentergem et le professeur à Sciences Po, Sylvain Kahn. Enfin, le chagrin, Piccoli, acteur prodigieux, homme généreux. Jean-Claude Carrière, le scénariste de Belle de Jour ou de Milou en mai, nous racontera le Michel Piccoli qu'il a connu. Voilà le programme.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Dominique Costagliola.
Bonjour.
Épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. D'abord, cette étude importante publiée hier dans The Lancet sur près de 100 000 patients hospitalisés à travers le monde, 15 000 traités à la chloroquine ou à l'hydroxychloroquine, seuls ou associés à un antibiotique dans les 48 heures suivant leur diagnostic. Résultat, aucun bénéfice, mortalité accrue et risque aggravé d'arythmie cardiaque. Que retenez-vous de cette étude ?
D'abord, il faut se souvenir que c'est une étude observationnelle, donc ce n'est pas un niveau de preuve aussi fort que si c'était les résultats d'un essai clinique. Néanmoins, elle pointe vers un effet délétère finalement de l'hydroxychloroquine, au-delà même de son effet cardiaque, hein, parce que l'effet sur la mortalité est au fond pas seulement lié à l'effet sur les problèmes cardiaques. Et moi, c'était quelque chose que je craignais depuis le départ, c'est-à-dire pas seulement que ça ne servait à rien, mais que ça pouvait être délétère, comme ça avait été le cas quand on l'a utilisé dans le chikungunya.
Les auteurs de l'étude suggèrent de stopper immédiatement les prescriptions d'hydroxychloroquine hors essais cliniques, essais dont on sait qu'ils sont toujours en cours. Qu'en pensez-vous ?
Ben, je pense qu'une évaluation va être conduite par le Haut Comité de Santé Publique. On va voir dans quel sens ils vont. C'est sûr qu'il faut que l'utilisation soit extrêmement encadrée, extrêmement surveillée. Et dans la mesure où on n'a montré aucun effet bénéfique, on ne voit pas l'intérêt qu'il y a à continuer à l'utiliser en dehors du cadre des essais qui permettront de voir si oui ou non, au final, il y a quand même une catégorie de patients pour lesquels ça pourrait être utile.
Cette semaine,
aussi,
oui, je vous en prie.
Il faut bien voir aussi que, en fait, un des problèmes particuliers, c'est que la maladie elle-même, Covid, elle accentue les problèmes cardiaques. Elle crée des problèmes cardiaques chez les gens. Et quand on rajoute deux médicaments qui eux aussi ont une toxicité cardiaque, il est probable que la toxicité de cette combinaison est supérieure à ce qu'elle aurait dans le cas d'une autre maladie. Et c'est ça quelque chose auquel les gens n'avaient pas réfléchi quand ils ont fait cette proposition.
Les défenseurs du traitement disaient dès hier, mais cette étude porte sur des patients hospitalisés et non pas sur des malades qui ressentent le premier symptôme à qui on pourrait administrer un traitement. C'est une objection valable selon vous ?
Bah en fait, dans cette étude, ils ont choisi de ne prendre en compte que des personnes qui avaient reçu le traitement moins de 48 heures après le diagnostic. Donc de toute façon, extrêmement précocement après le diagnostic. Ouais. C'était justement la recommandation qui était faite par l'équipe de l'IHU de l'utiliser chez les gens au tout début de la maladie. Vous voyez, on ne peut pas donner le traitement avant que les gens soient diagnostiqués. Dans les 48 heures, c'est vraiment le tout début et c'est plutôt plus précoce que dans les études qui ont été conduites à Marseille.
Cette semaine, Dominique Costagliola a également été marquée par les annonces de la firme américaine Moderna sur les premiers essais cliniques de son candidat vaccin. 8 des 45 volontaires vaccinés en phase 1 ont développé une réponse immunitaire, ça a été dit dans un communiqué de presse. Encourageant ou prématuré ?
Disons, c'est un peu ce qui était attendu. C'est sans doute une annonce par ailleurs prématurée. On sait très très bien, quand on recherche un vaccin, que c'est pas parce qu'on est en train de faire des essais de phase 1 ou même qu'on montre une certaine capacité à faire développer des réponses immunes chez les personnes qui reçoivent le vaccin, que ça donnera forcément lieu à un vaccin à la fin. Dans l'infection à VIH, qui est la maladie sur laquelle je travaille, eh bien, on a eu déjà à de très nombreuses reprises des essais de phase 1 encourageants. Néanmoins, plusieurs dizaines d'années après le début de la pandémie, eh bien, on ne voit toujours pas de vaccin poindre.
Oui, c'est l'expérience du VIH, hein, de la course au vaccin contre le sida qui vous rend prudente.
Absolument. Mais d'une façon générale, quelle que soit la maladie, le fait d'avoir des tout premiers résultats sur un essai de phase 1, on s'attend bien à ce que parmi la centaine de candidats qui sont en train d'être étudiés dans le monde, il y en ait quelques-uns qui passent l'étape de la phase 1. Mais après, pour arriver jusqu'à être un vaccin qu'on commercialise, il y a encore énormément de haies à franchir et on n'est qu'au tout début de la course.
Ouais. Quelle est la haie décisive? C'est la phase 3, c'est le moment où on teste le candidat vaccin sur des milliers de patients?
Oui, et avec quand même la nécessité d'avoir aussi pu montrer l'innocuité du vaccin. C'est ça qui va être également un enjeu extrêmement important. Et donc c'est ça qui va être crucial. Il faut qu'il soit à la fois immunogène, capable de faire produire les bonnes réponses immunes à l'organisme, mais sans avoir d'effet délétère, parce qu'un vaccin, par définition, doit avoir une balance bénéfice-risque avec des risques extrêmement petits, puisqu'on l'administre à des gens qui vont bien.
Bien sûr. Dominique Costagliola, vous restez avec nous au moment où on déconfine les lieux de culte et un peu plus tard les bureaux de vote. Je voudrais que vous nous disiez ce qu'on sait des lieux de contamination du virus. À tout de suite après une courte pause.
Europe 1. Vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec l'épidémiologiste Dominique Costagliola, à l'issue d'une deuxième semaine de déconfinement en France, où tous les indicateurs restent à la baisse, mortalité, réanimation, urgence, est-ce que c'est encourageant ou est-ce que c'est encore le résultat du confinement ?
On commence juste à être au moment où on va pouvoir observer ce qui est lié au post-confinement, puisqu'on sait que l'hôpital, c'est 2 à 3 semaines après le fait d'être infecté, puisqu'il faut un certain temps d'incubation pour développer des symptômes et pouvoir être diagnostiqué. Et ensuite, c'est seulement en cas de forme sévère qu'on est hospitalisé. Et les décès, c'est encore plus à distance. Donc on commence tout juste à pouvoir voir les premiers signes qui seraient vraiment la suite du confinement, et notamment plutôt en regardant les données de consultation de SOS médecins, des médecins généralistes et en partie aussi les urgences.
Donc réponse dans les prochains jours?
Oui, plus probablement dans la semaine qui vient ou dans les 2 semaines qui viennent.
Est-ce qu'il est possible, comme le suggèrent certains de vos collègues, qu'une partie de la population ne soit pas sensible à ce virus, qu'elle soit immunisée après avoir été exposée dans le passé à d'autres coronavirus, ce qu'on appelle une immunité croisée?
Je pense que les gens font cette hypothèse basée sur des observations de contamination dans des lieux confinés, comme par exemple à bord des bateaux de croisière. Mais si on prend justement un exemple de bateau qui n'est pas un bateau de croisière, le Charles de Gaulle, là en revanche on voit que 60% de la population a été infectée. Dans le premier bateau de croisière qui était dans le port de Yokohama, c'est seulement 20%. Donc je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont bâti cette hypothèse. Mais je ne comprends pas pourquoi les personnes du bateau de croisière de Yokohama n'auraient eu que 20% de taux d'attaque, donc de nombre de personnes finalement infectées à la fin, et pourquoi ça serait 60% dans le Charles de Gaulle. Je pense que même si ce sont des quasi-expérimentations, à la fin on finit par prendre des mesures qui font qu'on n'observe pas l'évolution naturelle. Et à bord du Charles de Gaulle, on voit que finalement près de 60% de la population a été atteinte. C'est à peu près l'épure de ce qui est attendu quand on parle d'immunité grégaire pour arrêter la circulation du virus.
Question aussi, Dominique Costagliola, sur le mode de transmission. Une série d'études montre que la grande majorité des contaminations se produit dans des lieux clos, des espaces confinés, éventuellement mal ventilés, pendant une ou plusieurs heures. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'on est en train de voir que la diffusion de l'épidémie et le fait qu'elle devienne vraiment avec une croissance exponentielle est liée à des événements de super diffusion. Ça peut être comme le patient anglais au contamine Montjoie qui a contaminé énormément de personnes, mais ça peut être aussi effectivement des réunions en lieu clos qui durent plusieurs heures où les gens échangent de façon étroite, comme la réunion évangélique par exemple, ou bien comme des épisodes qui ont été décrits de chorale et probablement aussi dans les transports en commun. Donc pour la plupart d'entre ces événements, on est maintenant dans une situation où leur probabilité est extrêmement faible puisqu'on interdit les rassemblements, les salles de spectacle ne sont pas ouvertes, etc. etc. Finalement, le seul lieu possible qui a repris, c'est les transports en commun, mais là aussi avec des mesures de distanciation et des mesures barrières qui doivent limiter la probabilité que des événements de super diffusion se produisent et ne réemballent l'épidémie.
Oui, mais il y a aussi des foyers de contamination dans les abattoirs, dans des usines de viande, et cela dans de nombreux pays à travers le monde.
Ou dans des foyers, comme on a vu là à Tours récemment, un foyer étudiant, enfin, tous les endroits où effectivement on a de nombreuses personnes, un milieu confiné et probablement des mesures barrières qui ne sont pas bien respectées. Alors ce qui change quand même par rapport à ce qu'on a vu au début de l'épidémie, c'est que maintenant on va faire des tests, aller regarder là où les personnes travaillent et dans leur entourage et essayer de briser finalement ces chaînes le plus tôt possible après leur début. Et donc on a une vigilance, je pense, particulière par rapport à ces événements. C'est ça qui nous laisse une chance que ça puisse ne pas repartir.
Des espaces clos, donc avec beaucoup de monde en contact prolongé, c'est le risque majeur. Et donc en extérieur, dans des lieux ouverts, en milieu naturel, est-ce qu'on peut dire que le risque est minime ?
On ne sait pas bien le quantifier. Il est certainement beaucoup moindre, mais on ne saurait pas dire si c'est un facteur 100 ou un facteur 50. Ça, je pense que quantitativement, on ne peut pas l'estimer. Mais c'est sûr qu'il est certainement beaucoup moindre.
Mais ça pose aussi des questions sur les mesures, les règles sanitaires qui sont aujourd'hui en vigueur en France, où on rouvre des centres commerciaux, des lieux de culte aujourd'hui même, demain des bureaux de vote, mais où on laisse encore fermer un certain nombre de parcs et jardins publics.
Oui, ça c'est sûr qu'on ne comprend pas bien la logique qui sous-tend ces mesures, et je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion autour de ça. Les lieux fermés, quand même, ce qui pose problème essentiellement, c'est quand on y est pour des durées longues. Donc je pense par exemple au bureau de vote. Je crois que pour les votants, c'est pas tellement un problème. Le problème est plus de comment on garantit des mesures barrières, de l'aération et que ce soit pas un milieu fermé pour les assesseurs. C'est plutôt de cette façon-là. Et bien sûr, dans les parcs et jardins, cet espace-là, à condition qu'il n'y ait pas une trop grande densité de population, il n'est certainement pas plus dangereux que d'être dans la rue. Vous voyez, c'est pas le fait d'être dans un parc versus être dans la rue, le risque est quand même le même. Ce qui compte à chaque fois, c'est la densité de population. Donc il suffirait de pouvoir réguler cet aspect-là pour que ça ne pose pas plus de problème que l'autorisation que l'on a de marcher dans la rue.
S'il n'y a pas, évidemment, d'attroupement. Merci beaucoup, Dominique Costagliola, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
Europe 1.
Angela Merkel fait sa révolution. Le professeur Sylvain Kahn et la journaliste Marion von Rentergem nous en parlent dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée cette semaine.
Un tournant majeur dans l'intégration européenne, une révolution copernicienne pour l'Allemagne, un plan Merkel-Macron étonnamment ambitieux, ça c'est le titre de l'hebdomadaire Vie Économiste. Voilà quelques-uns des commentaires qui ont suivi la proposition des dirigeants allemands et français de la création d'un fonds de relance doté de 500 milliards d'euros avec un emprunt sur les marchés au nom de l'Union européenne. Bonjour Marion Van Rettergem.
Bonjour Patrick.
Journaliste, chroniqueuse à l'Express, biographe d'Angela Merkel, votre livre est paru l'an dernier aux Arènes. En ligne également, Sylvain Kahn, bonjour.
Bonjour Patrick Cohen.
Historien, professeur à Sciences Po, auteur du Pays des Européens avec Jacques Lévy. Sylvain Kahn, expliquez-nous simplement d'abord ce que change cette initiative. Quel tabou a été brisé ?
Le tabou qui a été brisé, c'est celui de l'émission d'une dette publique européenne par l'Union européenne en tant que telle. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, comme on le sait, il y avait une monnaie unique avec une banque centrale européenne, mais il y avait également un budget européen qui est par ailleurs assez modeste, mais il n'y avait pas ce qui se fait dans n'importe quel État ou dans n'importe quel pays, c'est-à-dire la capacité pour un État et un gouvernement de se tourner vers les marchés financiers, soit domestiques, soit internationaux, en disant, bah écoutez, voilà, j'ai des politiques publiques formidables à financer, par conséquent, j'aimerais emprunter de l'argent, et comme je suis un État très fiable, vous allez me prêter à des taux d'intérêt très avantageux. Voilà, ça c'est ce que fait la France, l'Italie, la Lituanie, l'Espagne, l'Irlande, tous les pays européens font ça chacun de leur côté, depuis des années, pour ne pas dire depuis des siècles. Et depuis 70 ans que l'Europe existe, elle-même, en tant que telle, ne le faisait pas. Or, l'Union européenne, c'est un État, si vous voulez, que les marchés vont adorer, parce que c'est un État extrêmement solide, c'est un pays très grand, 500 millions ou 450 millions d'habitants, très riche, qui est vierge de tout endettement. Donc, pour tous les investisseurs, que ce soit les épargnants, les gens qui ont de l'assurance vie ou les établissements financiers, eh ben, prêter à l'Union européenne, ça va être du pain béni. Voilà. Mais jusqu'à présent, ça ne se faisait pas parce que, disons que les États n'étaient pas tous d'accord entre eux pour le faire, ou que certains épargnants en Europe n'étaient pas d'accord. Mais là, maintenant, il y a clairement une préférence collective de toute la part ou de la majorité de la société européenne pour le faire. Et même ceux qui étaient réticents comprennent que c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt général des Européens.
Marion Van Rettergem, comment voyez-vous cette évolution-révolution ?
Oui, vous avez parlé de révolution copernicienne et je pense que c'est bien de ce dont il s'agit parce que c'est un véritable renversement des perspectives auxquelles on a assisté. En politique, les mots, ça compte. Alors, ça compte un peu moins parfois en France qu'en Allemagne. En France, on est volontiers plus lyrique. Mais en Allemagne et surtout dans la bouche d'Angela Merkel, qui n'est vraiment pas une lyrique, ça veut dire quelque chose. Donc, quand on parle de solidarité, quand on parle d'intégration, de politique industrielle, de champions européens, ce sont les mots qu'elle a employés, c'est vraiment une avancée gigantesque et sans compter quand même devant le Bundestag, avant la conférence de presse avec Emmanuel Macron, Angela Merkel a fait référence à Jacques Delors, ce qui n'est pas rien, quand on sait que pour Jacques Delors, il n'y a pas d'union monétaire sans union politique, sans convergence économique dans une intégration politique. Et ce qui était important aussi dans ce qu'ils ont dit l'un et l'autre lors de cette conférence de presse, Macron et Merkel, c'est une reconnaissance des erreurs passées. Macron a mis en cause les programmes d'austérité qui ont précédé au moment de la crise financière de 2008-2011 notamment, et de la crise des dettes souveraines en 2011, qui avait conduit certains pays à vendre des infrastructures, notamment aux Chinois, des ports, etc. Et Merkel, elle, a remis en question le droit de la concurrence, un dogme de l'Union européenne qui empêche la constitution des grands champions européens. Elle a parlé elle-même de ces champions. Elle a dit « Nous devons avoir le courage de créer des champions au niveau mondial ». Et ça, c'est vraiment énorme, révolutionnaire. Et l'un et l'autre, Macron et Merkel, ont parlé d'un changement de philosophie, d'un changement d'optique. Alors, je ne sais pas si ça ira vers une union politique, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. On en est qu'au stade de la déclaration franco-allemande, d'une déclaration d'intention. Il y a encore, on est 27 pays, on n'est pas que deux. Donc, la partie n'est pas du tout gagnée. Mais malgré tout, c'est un pas énorme qui a été franchi.
On va y revenir à ses implications, notamment sur le plan de la concurrence, parce que, comme vous l'avez dit, des champions européens, il y en a eu quelques-uns d'empêchés à cause des règles européennes. Qu'est-ce qui a fait bouger Angela Merkel, Marion ?
Alors, Merkel, il faut dire que d'abord, elle est lente. C'est quelqu'un de lent. Ça énervait d'ailleurs en particulier le président Sarkozy, qui n'est pas d'un tempérament très lent et qui était beaucoup plus agité. Elle est lente à la fois comme personne et comme institution. Elle est lente comme scientifique et elle est lente comme dirigeante d'un pays, d'une république fédérale qui elle-même fonctionne de manière plus démocratique et plus lente que la nôtre. Ce qui l'a fait bouger, c'est que d'abord il y a quelque chose chez Angela Merkel qui n'est pas une grande ambitieuse, qui n'est pas une grande audacieuse en politique. Elle a bougé 3 fois dans sa vie au cours de ses 4 mandats. Elle a eu 3 fois des réactions instinctives, assez inattendues, qui allaient parfois au contraire dans un sens inattendu par rapport à sa politique, parfois même par rapport à son parti. La première fois, c'était au moment de la catastrophe de Fukushima, quand elle a tout d'un coup, du jour au lendemain, décidé l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Elle franchissait, là aussi, elle a brisé un tabou. La deuxième fois, c'était, on se souvient bien, au moment de la crise des migrants de 2015, avec son fameux Wir schaffen das, et qu'elle a décidé d'accueillir sur le sol allemand plus d'un million de réfugiés. D'ailleurs, ensuite, le pays a réussi à les intégrer de manière admirable. Et là, c'est la troisième fois que Merkel prend une décision qui va totalement à l'envers des normes, des habitudes allemandes, de ces dogmes. Mmh. Alors, à la fois, c'est l'européenne qui parle, hein, parce qu'elle n'a plus d'enjeu électoral, contrairement à Emmanuel Macron. Elle est assez libérée, c'est son 4e mandat, elle ne se représentera pas. Et en même temps, il ne faut pas être naïf. Si elle a bougé, ce n'est pas par philanthropie. C'est parce que c'est dans l'intérêt de l'Allemagne. Et là aussi, c'est une des phrases qu'elle a prononcées qui est significative. Elle a dit, si l'Europe est faible, l'Allemagne est faible. Donc, Merkel comprend très bien, et c'est ce qu'elle a fait passer devant le Bundestag, que l'Allemagne, d'abord, qui est un pays d'exportation, qui exporte très majoritairement dans l'ensemble de l'Union européenne, ne peut pas se permettre de tolérer une Europe faible. Elle a vu aussi les dangers qui s'accumulaient, les dangers d'une perception d'un très national de cette crise qui a été horriblement mal gérée par l'Union européenne au départ. Donc elle a vu des replis nationaux se mettre en place. Elle a vu l'europhobie montant en Italie comme on ne l'a jamais vu. Il y a un sentiment europhobe en Italie extrêmement très fort. Et elle a parlé, là aussi, c'est un mot-clé de son discours, elle a parlé de cohésion. Et je pense qu'elle a compris que la cohésion européenne était mise en cause et notamment qu'on pouvait exacerber la fracture qui est l'une des plus graves, enfin qu'elle perçoit elle comme la plus dangereuse et qu'il est à vrai dire, qui est la fracture entre le Nord et le Sud, que les trois grands pays socles de l'Union européenne, trois pays fondateurs, non pas l'Espagne, mais en tout cas la France et l'Italie, deux pays fondateurs et en plus l'Espagne, sont les plus touchés par le Covid et les moins armés, les plus mal en point pour faire de la relance budgétaire parce que ce sont les plus endettés. Donc elle craignait vraiment cette déstabilisation en route et le déclic, ça a été, je pense qu'on pourra en reparler, la décision de la Cour de Karlsruhe qui a finalement reproché à la Banque Centrale Européenne d'aller trop loin dans le financement des budgets nationaux. Elle a revendiqué une forme de suprématie sur le droit européen et ça, Angela Merkel a considéré que c'était extrêmement grave. Ça a été un peu le déclic et le fait qu'elle a pu réagir avec cette espèce d'instinct, de spontanéité et de vitesse, comme elle l'avait fait 2 fois auparavant au cours de ses 15 ans de règne.
En contournant la cour de Karlsruhe, en quelque sorte. On va y revenir dans un instant, Sylvain Kahn, Marion Van Rettenhargem, et on va voir surtout quelles sont les chances de ce projet d'aboutir auprès des 27. À tout de suite.
Europe 1, tous les samedis de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Avec la journaliste Marion Van Rettenhargem et le professeur à Sciences Po Sylvain Kahn, maintenant qu'on a fait le constat de ce changement majeur, il faut s'interroger sur les chances de le voir aboutir à l'unanimité des 27. Ce sera l'enjeu du sommet européen des 18 et 19 juin. Sylvain Kahn, l'Autriche a déjà dit non. Ça peut changer ?
Bien sûr, ça peut changer. Vous savez, on peut prendre un précédent historique qu'on peut rappeler très très rapidement, qui est la mise en place du système monétaire européen en 1979, qui a été pendant deux décennies. Oui. L'ancêtre de l'euro. Et on a dit à l'époque, voilà, c'est formidable, ce couple franco-allemand incarné à merveille par ces deux gendres idéaux qui étaient Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, a fait quelque chose de formidable. Et ce faisant, on a juste oublié que il avait fallu 7 ans de débats, de divergences et de discussions pour arriver à la mise en place de ce système monétaire européen. Là, je pense que la mise en place du plan proposé par Madame Merkel et Monsieur Macron va mettre beaucoup moins de 7 ans, sauf si on considère que c'est un sujet qui est sur la table depuis une vingtaine d'années et que par conséquent, comme dans n'importe quel, on pourrait dire n'importe quel régime délibératif, si vous voulez, vous avez des opposants, vous avez des partisans, vous allez avoir des négociations, vous allez avoir des marchandages, et donc chacun rentre dans la négociation avec sa position de départ, où il va forcément faire un peu de surenchère. Et là, dans un État, dans une nation, en général, on a surtout des partis politiques représentés au sein d'un Parlement, qui est élu au suffrage universel par des citoyens, et puis la société civile est représentée par des acteurs qui peuvent être antagonistes ou convergents. Eh bien, en Europe, c'est la même chose. Vous avez ça. Il y a d'ailleurs un Parlement européen. Il y a ce qu'on appelle les groupes d'intérêt qui essayent de se faire entendre, les industriels, les écologistes, les scientifiques, les salariés, etc. Et puis, vous avez aussi un autre grand type d'acteurs dans cette espèce de démocratie un peu baroque qu'est l'Union européenne. Et ces grands types d'acteurs très particuliers sont des États souverains, un peu comme vous avez dans un grand pays fédéral comme l'Allemagne, les États-Unis ou le Brésil, à la fois un État central avec un Parlement dans lequel vous avez un Parlement élu par les citoyens et une Chambre des États fédérés. Bon ben, l'Autriche est l'un de ces États fédérés, par ailleurs souverains, puisque c'est un pays, et il commence tout de suite en disant « Ah ben nous, on n'est pas d'accord ». Mais il sait très bien que dès lors que deux des principaux pays qui a eux seuls, l'Allemagne et la France, ne peuvent avoir la majorité, vont néanmoins mettre tout leur poids dans la balance, l'Autriche, comme la Suède, comme le Danemark, comme la Finlande, savent très bien qu'ils vont devoir négocier. Donc c'est une position d'entrée dans la négociation pour que le compromis qui sera au final trouvé à l'unanimité ne soit pas trop éloigné, on va dire, de la manière dont ils voient les choses. Vous savez, Patrick Cohen, depuis 2 mois qu'il y a cette crise du coronavirus, il y a eu peut-être à intervalles très réguliers des inquiétudes de la part des commentateurs disant oh, « Mais regardez, l'Autriche n'acceptera jamais ceci, la Suède non plus, le Danemark cela. » Et puis 15 jours après, 3 semaines après, « Ah ben finalement, l'Autriche a accepté à l'unanimité avec tous les autres que la règle, la fameuse sacro-sainte règle des 3% soit suspendue. Ah, finalement, l'Autriche a accepté, comme le Danemark, la Finlande et la Suède, que finalement, on mette un plan de garantie de 500 millions d'euros sur la table. Et ça aussi, c'était à l'unanimité. On a finalement accepté, alors que 3 semaines avant, ce n'était pas le cas, que le mécanisme européen de solidarité soit déclenché sans aucune contrepartie. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe depuis 2 mois, mais les habitudes sont tellement ancrées, si vous voulez, dans la manière dont l'actualité va très vite, qu'on a tout de suite l'habitude de dire « Ah ben non, les Européens n'arriveront pas à s'entendre, il va y avoir des blocages », alors qu'au contraire, c'est juste des discussions, des négociations qu'il y a, j'ai envie de dire, comme dans n'importe quelle grande entité délibérative. Et au final, encore une fois, les sondages dans tous les pays depuis 2 mois, toutes les opinions publiques montrent un sentiment majoritaire pour ce qui est en train de se mettre en place. Et bah, puisque on est encore en démocratie dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, il n'est pas rare que les gouvernants soient sensibles, aux desiderata ou aux souhaits ou à l'intelligence de leurs opinions publiques. Et là, évidemment, ça paraît très important vu l'ampleur des financements publics qui sont mis sur la table par tous les Européens, de passer par cet instrument d'une dette publique européenne qui va permettre de la garantir aux yeux du monde entier.
Oui, dette publique, Marion van Rettergem, endettement commun, est-ce que c'est l'amorce d'un budget européen commun, je veux dire d'un budget substantiel davantage qu'aujourd'hui, et donc avec des transferts financiers des plus riches vers les moins riches, c'est ça que ça veut dire ?
Écoutez, j'ai entendu une note d'optimisme dans ce que venait de dire Sylvain Kahn, donc je vais sans doute faire l'avocat du diable, mais je pense que ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. D'abord parce que il y a un moment où quand le couple franco-allemand disait quelque chose, tout le monde suivait. Là, dans cette Europe à 27, beaucoup plus morcelée, avec des tas de fractures internes, c'est un peu plus compliqué de convaincre 25 autres pays. Et je dirais que là, on est comme au tennis, quand on suspend le match avant la nuit et qu'on le reprend, la nuit va être assez longue. Il y a beaucoup d'étapes. D'abord, on n'a même pas encore élaboré le budget européen pluriannuel. Là, la Commission, ce qu'on attend, c'est que la Commission présente dans le détail un plan en fonction de l'accord proposé par la France et l'Allemagne, et aussi en tenant compte des réticences des pays qu'on appelle poliment les frugaux et plus cruellement et plus crûment les radins. Il va ensuite y avoir le président du Conseil qui va devoir bâtir une unanimité, puis les parlements nationaux vont devoir voter, puisque cet accord a une incidence budgétaire et touche à l'argent public. Donc l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, est démocratique, donc elle fait appel au Parlement européen. Enfin, tout ça, on va être dans un chemin extrêmement long. Alors c'est vrai que l'impulsion est très forte, l'impulsion franco-allemande est très forte, que Merkel s'est montrée extrêmement déterminée et engagée. Or, elle est vraiment la représentante des pays du Nord, hein, des bons élèves de la classe, de ceux qui maintiennent la discipline budgétaire. C'est intéressant de noter que dans la rédaction de cet accord avec la France, c'est Merkel elle seule qui a insisté pour graver dans le marbre ce chiffre de 500 milliards d'euros. Les Français étaient plus propices, avaient une propension à rester un peu plus dans le flou. Elle a voulu, comme elle est toujours très maniaque des détails dans la rédaction des accords et des traités, c'est elle qui a tenu à inscrire ce chiffre des 500 milliards. Mais malgré tout, donc le front des opposants est très important. Il y a d'abord donc ces frugaux, ces quatre radins que sont le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche. Le Danemark en tête, d'ailleurs, il semble que c'est la première ministre danoise soit la plus réticente, qui sont donc sont des pays, parfois des petits pays, mais avec des économies extrêmement compétitives, des finances publiques irréprochables, etc. Mais il ne faut pas non plus négliger l'Europe de l'Est. Sylvain parlait des démocraties, l'Europe était plus ou moins démocratique, je pense qu'il pensait en effet à la Hongrie, à la Pologne, mais ceux-là, ils ont des raisons d'accueillir de manière plus que modérer cet accord et sans enthousiasme, puisque c'est un accord donc qui prévoit une ligne dans le budget correspondant au remboursement de cet emprunt. Or, c'est ce budget c'est précisément l'argent du budget qui aide ces pays d'Europe de l'Est avec les fonds structurels. Donc je pense qu'ils redoutent certainement que les fonds structurels soient empiétés en raison de ce budget supplémentaire. Donc qu'est-ce qui va rester
On va suivre ça, Marion Van Rettergem. Il y aura d'autres épisodes et on vous écoutera. On peut lire vos chroniques chaque semaine dans l'Express. Et relire Angela Merkel, un ovni politique aux arènes. Merci Sylvain Kahn, le versant optimiste de notre séquence. Votre dernier livre avec Jacques Lévy, paru l'an dernier, Le pays des Européens chez Odile Jacob. Très bien. Dans un instant, Michel Piccoli raconté par l'un de ses scénaristes, Jean-Claude Carrière.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Jean-Claude Carrière.
Oui, bonjour Patrick.
Homme de cinéma et de théâtre, homme d'écriture, vous avez souvent écrit, beaucoup écrit pour Michel Piccoli, oui. Avec Buñuel, Belle de jour, avec Louis Malle, Milou en mai. Parlez-nous de l'acteur et de l'homme que vous avez connu.
Oh, l'homme était merveilleux, c'était un ami très proche, toujours disponible, on pouvait lui demander n'importe quoi, même de lire des pièces que j'avais écrites et dans lesquelles il savait qu'il ne jouerait pas. Simplement pour me donner une idée du texte. C'était une incarnation de la France. Enfin, il a fait 200 films. On l'a vu dans 100 pièces de théâtre. Et on a pu le voir dans 100 pièces de théâtre. C'était un homme universel. Mais je voudrais dire quelque chose de particulier sur son jeu. Il a connu Buñuel avant que je connaisse Buñuel. Ils avaient fait La mort à ce jardin, déjà, Buñuel m'avait dit, ça c'est un acteur qui a le déclic. C'est-à-dire qu'on lui dit un mot et il devient un personnage. C'est une qualité intérieure très particulière. Il n'a pas à composer, il est. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, par exemple, dans je ne sais plus quel film, le Charme discret de la bourgeoisie, je crois, il a un plan dans le film, il joue un ministre. Il a un plan où il est debout, il parle au téléphone. Dès qu'il commence à parler, on entend un bruit d'avion qui passe, on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Bon, je vais sur le plateau ce jour-là. Et Michel était là déjà, il parlait avec les techniciens sur le plateau. Et Buñuel me prend à part et me dit « Regardez, Michel, c'est un ministre. » Et en effet, quelque chose en lui s'était passé qu'on ne peut absolument pas définir. On ne peut pas dire où ça se passe. Certains acteurs ont ça, d'autres ne l'ont pas. Il était un ministre sans s'en rendre compte dans sa manière de parler.
Mais quel est ce mystère qui lui permettait d'incarner autant de personnages différents?
Vous avez dit le mot, c'est un mystère. Il avait en lui une très grande disponibilité. C'était un homme très ouvert à tout, fidèle à ses opinions de gauche toute sa vie, serviable, gentil. Et il est drôle d'ailleurs que ce très grand acteur français ait un nom italien. Parce qu'il a beaucoup travaillé en Italie aussi. Donc c'est un don que quelques acteurs ont, ils n'ont pas à travailler. Ils sont. Vous voyez, il avait, bon, bien sûr, son physique, son élégance naturelle, c'est sa silhouette qu'on reconnaissait immédiatement, son front légèrement dégarni, comme ça tout qu'il a soigneusement gardé toute sa vie de la même façon, quelque chose d'irrésistible dans le regard, mais qui pouvait aller de quelque chose de très sardonique, voire méchant quelquefois. Dans Belle de Jour, par exemple, il y a des moments où, à l'égard de Catherine Deneuve, de la femme de son ami, il est même cruel, vous voyez, sans jamais perdre son sourire d'ailleurs. Et ça pouvait aller de ça à la fraîcheur naturelle de Milou Hamé, ouais, à quelque chose qui était campagnard, qui était simple, qui était... je lui ai appris pour Milou Hamé comment attraper des écrevisses à la main en se laissant mordre par des écrevisses. Il l'a fait très très bien. Oui, c'était...
Et Milou Hamé, vous l'avez écrit pour lui, en pensant à lui?
Oui, en pensant à lui, oui. Aucun doute. Louis avait l'idée dès le départ, parce que on était avec Louis Malle à Paris pendant le mois de mai 68. Et on s'est dit plus tard... une dizaine d'années plus tard, qu'on aimerait faire un film sur mai 68, mais qui ne se passerait pas à Paris, qui n'en serait que les échos lointains en province. Vous voyez ? Et on a choisi ce personnage de, on ne sait pas comment dire, de gentleman farmer, qui a quelques rapports avec le Gaef de la Cerisée, qu'il a joué par la suite avec Peter Brook, qui n'a rien fait de sa vie, dont la mère vient de mourir, et qui est absolument charmant, et qui découvre, avec mai 68, d'abord la marijuana. Il y avait une scène formidable dans laquelle il fume pour la première fois, et quelque chose dans la société qu'il ignorait. Il dit à un moment donné, comme disait Voltaire dans une lettre, et c'est vrai, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Vous savez ce qui m'a surpris le plus en apprenant sa mort, c'est son âge. Je ne connaissais pas son âge, je pensais que nous avions à peu près le même âge, alors il était plus vieux que moi, 94 ans. Ça m'a beaucoup surpris. Et jusqu'à la fin de sa vie, il avait cet esprit passe-partout, furteur, farceur. Par exemple, quand il s'est marié avec Juliette Gréco, je lui ai dit un jour, je ne connaissais pas Juliette Gréco, avec laquelle j'ai travaillé par la suite, et il est venu chez moi à la maison, j'étais dans mon bureau au fond, et « Bonjour, tu vas bien, ça va, oui ?»« Tiens, je t'ai apporté un petit cadeau. » Il m'amène dans la pièce à côté, et Juliette était assise sur un fauteuil, souriante, disant « Bonjour ». C'était notre première rencontre. Il était farceur aussi. Par exemple, il nous invite avec Buñuel à dîner chez lui, avec Buñuel et ma femme. Et il met sur la table une bouteille d'un vin tout à fait ordinaire, genre vin du Postillon, vous savez, un vin de table comme ça. Et Buñuel me lance un regard noir en me disant, mais comment? il nous a servi ça, et puis on le goûte, et c'était un bouton Rothschild.
Évidemment.
Qu'il avait mis dans
la bouteille. Merci beaucoup.
Ouais,
merci,
voilà.
merci à vous Jean-Claude Carrière d'avoir été avec nous en direct ce matin pour évoquer Michel Piccoli. Merci.
Oui, je le regrette beaucoup.
À bientôt. Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 9h pour C'est arrivé demain après les infos de 10h. Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen. Et à Mediapolis, un personnage, un sénateur dont le hebdomadaire Le Point dit qu'il a un train d'enfer. Claude Malhuret.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.